RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
Hola vive, bienvenue dans votre podcast After Galaxy. Merci de nous suivre, de lâcher vos commentaires, de nous être fidèles. Pour ce podcast numéro 22, on va dérouler sur les Coupes d'Europe, celles dont les autres ne parlent jamais ou trop peu. Focus sur les quarts de finale d'Europa League et d'Europa Conference League à suivre, à vivre sur RMC et sur RMC Sport. Et pour évoquer tout ça, bien sûr, nos drôles de dames sont là. Salut les gars.
Salut tout le monde. Bonjour mon cher Nico, bonjour tout le monde.
Salut tout le monde.
Alors je vous donne le programme de jeudi, hein. En Europa League, 21h, Braga Rangers, Eintracht Francfort, Barça. En Europa Conference League, il y aura notamment Leicester PSV, Bodo Glimt Roma, puis il y aura Marseille PAOK Salonique aussi. D'ailleurs, il y a un très bon podcast à écouter également After Galaxy sur le PAOK Salonique avec El Kadori notamment. Mais ça va démarrer dès 18h45 jeudi avec l'une des plus belles affiches sur le papier, le RB Leipzig face à l'Atalanta. Alors mon polo. Oui. Pour le RB Leipzig qui est reversé de Ligue des Champions et qui figurait d'ailleurs dans le groupe du Paris Saint-Germain, souvenez-vous, et qui lutte en Bundesliga pour rester dans le top 4, est-ce que cette Europa League est une priorité?
Alors, tu me poses une question subtile, mais je vais faire une réponse à tiroir. Je vais faire très court. Officiellement, oui, c'est une compétition qui compte pour le RB Leipzig parce que, tout simplement, ça permet une qualif directe pour la prochaine Ligue des Champions. Officiellement aussi, ça permettrait, s'ils vont au bout, d'accrocher tout simplement le premier titre pour le club saxon. Or, si je compare avec d'autres clubs européens, et je pense à l'Atlético Madrid par exemple, le club de Simeone, il n'est pas qu'en finale deux fois de suite de Ligue des Champions. Il s'est aussi fait un palmarès. Alors, on sait que pour attirer des grands joueurs, au bout d'un moment, il faut aussi permettre à ces joueurs d'être en capacité de gagner des titres. Et ça me semble important. Et puis, je le dirais d'une façon très simple, ça va être idiot de ne pas tenter de la gagner à l'instant T, puisque c'est sûrement la meilleure équipe d'Allemagne en ce moment, en tout cas celle qui est la plus en forme depuis les matchs retour. Mais c'est plus facile de gagner un titre via la Coupe d'Allemagne où tout le monde s'est fait éliminer, dont le Bayern, où ils sont eux en demi-finale et archi favoris de cette compétition. C'est peut-être aussi plus facile, vu ce qui s'est passé ce week-end, de se qualifier pour la Ligue des Champions via le championnat que d'aller chercher la victoire en Europa League, alors qu'il reste quand même des sacrés clients. Et puis il y a le calendrier et il y a les absents. Donc j'ai envie de dire oui, parce que tout le monde officiellement le dit. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment envie de mettre toutes leurs chances pour y arriver? Moi, je le souhaite. En tout cas, parce que c'est une superbe affiche contre l'Atalanta. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, officiellement, c'est oui.
Alors, cette histoire de qualif pour la Ligue des Champions via l'Europa League, Fred, Villarreal a connu ça la saison dernière, tout misé sur la C3 pour atteindre la Ligue des Champions.
Oui, alors c'était un pari très, très risqué quand même, mais ça a fonctionné. Ça a été le premier titre européen pour cette petite équipe de Villarreal. Et ça reste à ce jour la plus petite ville d'Europe à avoir remporté une Coupe continentale. Seulement 50 000 habitants. Du côté de Villarreal. Après, ils ont tout misé. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de miser sur la Liga. Donc, on va dire que cette qualification a été le cadeau arrivé avec la victoire en Ligue Europa. C'était pas forcément une stratégie, mais c'est quand même bienvenu. D'ailleurs, ce Villarreal qui est toujours en course en Ligue des Champions, c'est pas rien.
Alors Polo, ce match entre Leipzig et l'Atalanta, c'est aussi un peu le match de Domenico Tedesco, l'entraîneur de Leipzig depuis décembre dernier. Lui qui est d'origine italienne, on le rappelle,
il est né en Italie, d'origine italienne. Mais ce que j'adore avec lui, c'est qu'en fait, il ressort un petit peu du bois, parce qu'on nous a fait, il y a quelques années, le duel entre Klopp et Tuchel. Et historiquement parlant, on a eu le duel entre Nagelsmann et Tedesco, parce que lorsque ces deux jeunes entraîneurs ont été diplômés de la fédération allemande, ils ont eu la première place ex aequo. Et donc, on les a toujours un petit peu opposés. Tedesco, c'est un peu le côté noir du football allemand, parce qu'il avait une réputation très défensive, que je vais essayer d'ailleurs d'arrêter d'en parler parce que c'est complètement faux. Et Nagelsmann, il y avait un côté prince flamboyant, on parle que de lui, etc. Un peu comme Klopp, il prend toute la lumière. Mais ce que j'adore chez Tedesco, c'est que personne connaît son histoire dès le départ. En fait, il est chez les U19 à Hoffenheim, et puis on le nomme en fait pour une opération sauvetage dont personne ne croit dans un petit club allemand, le FC Erzgebirge Aue, c'est dur à dire, pour les 11 dernières journées de seconde division, on pense que tout le monde, que l'équipe va descendre, il arrive, donc il n'a pas d'expérience. Et puis, 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites, il sauve directement le club. Dès l'année d'après, on le balance à Schalke, et il finit deuxième du championnat, donc il se qualifie pour la Ligue des Champions. Et puis, par contre, on lui dit, ouais, mais quand même, et c'est là que vient sa légende un peu noire, c'est très défensif. Sauf que personne n'analyse l'équipe de Schalke de l'époque. C'est une équipe très moyenne, en fait. Il y a des jeunes qui arrivent, etc. Mais en fait, on n'est plus du tout sur l'équipe qui nous avait habitué à être en 8e de Ligue des Champions. En deuxième saison, à Schalke, il se qualifie pour les 8e. Ça se finit mal. Il se prend le 7-0 contre Manchester City. On le remercie parce que l'équipe ne suit plus. Mais encore une fois, on n'analyse pas le véritable effectif qu'il a. Donc, il se relance en Russie au Spartak. Ben, qu'est-ce qui se fait dès la deuxième saison? Eh ben, il finit deuxième du championnat. Tu le sais, le Spartak a joué contre Benfica en préliminaire, etc. Et donc, finalement, il quitte le Spartak et puis il rebondit au RB Leipzig où il remet d'équerre l'équipe d'une façon extrêmement flamboyante d'ailleurs. Et la petite histoire, c'est qu'il aurait dû affronter son ancien club en 8e d'Europa League. Et vous savez qu'avec la guerre en Ukraine, et ben les clubs russes ont été sanctionnés. Et donc voilà, c'est qu'en fait, Tedesco est en train de revenir au premier plan du football allemand avec une équipe extrêmement ambitieuse, mais toujours extrêmement disciplinée. On l'a vu ce week-end contre Dortmund. Et c'est pour ça que je pense que dans les prochaines années, il va falloir compter sur cet entraîneur d'origine italienne.
Alors justement, d'origine italienne, Yon, est-ce que c'est quelqu'un dont on parle? Est-ce qu'il y a un phénomène, je sais pas, de curiosité, d'attraction même vis-à-vis de Tedesco en Italie?
Bah, honnêtement, on n'en parle pas habituellement. Alors là, cette semaine, j'imagine qu'en conférence de rédaction, il va être décidé de faire un portrait dans plusieurs médias, parce qu'évidemment, ça concerne indirectement un club italien, l'Atalanta, enfin même plus qu'indirectement, directement un club italien, mais en temps normal, hors exploit, parce qu'on avait parlé quand il avait permis à Schalke de finir deuxième et d'accéder à la Ligue des Champions, on en avait un petit peu parlé, on avait parlé des bons résultats, etc., avec un peu de fierté, en disant hey, « coucou, au fait, rappelez-vous, il est italien ». Mais sinon, on n'en parle pas. Et ça, c'est un vrai problème du football italien, enfin de l'Italie de manière générale, c'est qu'on est un peu trop auto-centré sur notre football en Italie, sans forcément beaucoup regarder. Déjà, ne serait-ce que regarder ce qui se fait ailleurs. Alors, en parler, vous imaginez bien que c'est compliqué.
Et alors, Johan Paulus, on se demandait avec Paulus si finalement cette Europa League n'était pas la compétition qui collait le mieux à Leipzig. C'est un peu ce que tu dis sur l'Atalanta depuis un moment déjà, toi d'ailleurs, hein, depuis quelques saisons. Est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt un club d'Europa League que de Ligue des Champions, l'Atalanta?
En fait, le problème, c'est que l'Atalanta nous a très mal habitués. Aujourd'hui, certains peuvent voir l'Atalanta reversée en Europa League et se dire « Oh, c'est décevant, c'est dommage par rapport aux autres années où l'Atalanta avait fait un quart de finale de C1 contre le PSG, un huitième de finale ensuite contre le Real ». Mais en fait, l'Atalanta, il faut toujours parler de contexte dans le foot. Polo parlait du contexte de l'équipe de Schalke pour juger le jeu de Tedesco. Bah, l'Atalanta, c'est pareil. En fait, elle a fait des performances extraordinaires depuis 2 ans en Ligue des Champions. Et c'est vraiment qu'elle sortait de l'ordinaire. C'était pas le quotidien normal d'un club comme l'Atalanta. Ce qui d'ailleurs nous permet de mesurer encore plus hein, l'exploit qu'ils ont réalisé là en 2019-2020 et 2020-2021 en Coupe d'Europe. Mais aujourd'hui, dans la construction à l'instant T du club, son expérience européenne qui était nulle, je le répète, il y a encore 5 ans, enfin quasiment nulle il y a 5 ans, n'exagérons rien, à la fin des années 80, début des années 90, il y a eu 2-3 trucs. Cette Europa League correspond sans doute mieux à ce qu'est le club à l'instant T. Parce que si on prend tous les facteurs, je viens de le dire, l'expérience générale, l'expérience de l'entraîneur, l'expérience des joueurs, même la qualité de l'effectif, on n'est pas sur un quart de finaliste de Ligue des Champions en temps normal. On est sur un quart de finaliste, à la rigueur, de l'Europa League. Et en C3, tu peux en plus avoir cette ambition de gagner cette compétition. La Ligue des Champions, tu dis, si ça se passe bien, si toutes les planètes sont alignées, et qu'il y a un gros qui nous prend de haut, etc., bah peut-être qu'on peut filer jusqu'en 8e, et puis aller peut-être jusqu'en quart, si on a un bon tirage. Là, en Europa League, avec le jeu pratiqué par Gasperini, la connaissance qu'ils ont entre eux, et puis un niveau qui est quand même moins fort, avec de moins grosses équipes, évidemment, qu'en Ligue des Champions, ça peut devenir un objectif crédible, et sans oublier que ça permettrait à l'Atalanta de se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine, parce que là, à cette journée de la fin, on peut quasiment affirmer, avec 8 points de retard et 7 matchs à jouer, que l'Atalanta ne parviendra pas à atteindre la 4e place en Serie A.
Et alors, derrière la question qu'il y a derrière aussi, finalement, ce plafond de verre qu'il peut y avoir sur l'Atalanta, est-ce que c'est pas le plafond de verre aussi sur la tête de Gasperini? Est-ce qu'il n'a pas déjà atteint le maximum avec cette équipe, ses joueurs, ce club même?
Moi, je ne le pense pas. Gasperini, c'est un peu le vilain petit canard qui prend la place des gros depuis 3 saisons en Serie A. Et ces 3 dernières saisons, je le rappelle quand même, c'est 3 fois sur le podium. Et cette année, je viens de le dire, l'Atalanta risque de finir hors podium et même hors top 4, puisqu'ils ont ces fameux 8 points de retard à cette journée de la fin. Gasperini, c'est un entraîneur bâtisseur qui a mis un système en place et au-delà même de son schéma, hein, on le connaît, le 3-4-2-1 ou 3-4-1-2 sont les variations des joueurs disponibles. Il y a une grande intensité, il y a un marquage individuel tout terrain, tout ça on le sait. Il a tiré très sincèrement 200% de son équipe pendant 3 saisons. Et cette saison, bah, il est plutôt autour de 100%, 110%. Est-ce qu'il peut faire mieux, très sincèrement, aujourd'hui, avec les historiques Jim City, Palomino, Attebourg, De Roon, qu'il a su évidemment emmener au très haut niveau, et même pour certains d'ailleurs en sélection, je pense aussi à Gossens que connaît bien Polo, j'en suis pas certain. Est-ce qu'aujourd'hui, des Attebourg...
Ouais. City, c'est un exploit quand même. Quoi. Enfin,
mais même Palomino, c'est ouais, ouais. C'est pas des bons défenseurs.
Je le suivais en Suisse à l'époque quand il était jeune parce que c'était un espoir. Franchement, enfin, le voir à ce niveau-là, c'est. Enfin,
c'est inespéré.
C'est fou. Et c'est le travail de Gasperini, évidemment, qu'il faut souligner. Est-ce que les Attebourg post-blessure, parce qu'il y a une blessure importante, il n'a pas joué quasiment pendant un an, et Zappa Costa, est-ce que c'est pas très inférieur au Attebourg avant blessure et Castagne et Gossens? Bien évidemment que si. Donc on va scruter ce qui va se passer à Bergame cet été, parce que l'arrivée du nouvel actionnaire principal américain, est-ce que ça veut dire plus de ressources financières pour améliorer la qualité individuelle, donc prendre des joueurs plus forts qui vont ensuite te permettre d'améliorer encore plus ton collectif? Est-ce qu'on va simplement chercher à régénérer le groupe en se disant, bah tiens, ponctuellement, on va prendre tel joueur, c'est à peu près du même niveau, mais lui, on va le laisser partir et puis on va le remplacer par aussi fort, entre guillemets? Ou est-ce qu'on va vraiment l'améliorer considérablement? C'est ça qui va être très intéressant, parce que si tu restes sur la dynamique actuelle, te qualifier une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, 2 fois tous les 3 ans, peu importe à peu près la formule, tu pourras parvenir plus ou moins à le faire. Il faudra faire attention quand même, parce qu'il y a des clubs qui travaillent bien, comme le Napoli, comme la Roma, comme le Milan, comme la Juve. Donc quand ces clubs-là vont revenir à un niveau plus important, l'Atalanta peut en souffrir. Ou est-ce que l'idée, c'est de prendre une place définitive dans le top 4 en se disant 3 années sur 4, on sera en Ligue des Champions. Ça va être extrêmement intéressant à suivre ce qui se passe à l'Atalanta.
Ce Leipzig-Atalanta, ce sera donc jeudi 18h45, quart de finale d'Europa League. Autre belle affiche de ces quarts d'Europa League, Eintracht Francfort FC Barcelone, ce sera jeudi à 21h. Le Barça, lui aussi, reversé de Ligue des Champions, qui redécouvre cette saison la C3, la dernière participation des Catalans dans la compétition, remontée à la saison 2003-2004. Ils avaient été sortis en 8e de finale par le Celtic. Un seul but sur les deux confrontations, tout s'est joué dans l'ambiance folle du Celtic Park.
Might have tried a little cut inside. Well, there's a great chance, it's in! Great move forward there, and Alan Thompson has given Celtic the lead. Defense wholly caught out, and Celtic are in front deservedly.
Et un seul but, c'était Alan Thompson qui avait marqué le seul but sur les deux confrontations. Alors Fred, le Barça est métamorphosé depuis l'arrivée de Xavi, mais de par son statut, il fait partie des favoris de cette Europa League. Alors qui dis-tu peut être un piège pour le Barça, cela dit, cette saison?
Oui, parce que logiquement, le Barça, c'est pas l'un des favoris, c'est le favori de cette compétition. C'est-à-dire que, et je pense que ça peut être un piège dans le sens où ils ont finalement beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Si le Barça remporte la Ligue Europa, tout le monde va trouver ça logique au vu du statut de cette équipe. Alors, c'est le Barça depuis cette confrontation face au Celtic dont tu parlais, il y a 19 ans, il y a quelques Ligues des Champions et quelques succès qui sont passés. Ouais. Donc aujourd'hui, le Barça est une équipe de Ligue des Champions, ce n'est pas une équipe de Ligue Europa. Donc le remporter cette compétition, cette petite Coupe d'Europe, serait considéré comme tout à fait naturel. Et finalement, on n'en tirerait pas un grand bénéfice.
Alors ce ne serait pas une gloire, tu veux dire, pour le Barça.
Ce serait pas une gloire, quoi. Ouais. Enfin, c'est-à-dire, t'es le Barça, tu gagnes l'Europa League, alors que t'es éliminé de la Ligue des Champions, en phase de groupe. Enfin, tu vois, c'est pas très glorieux. Et si jamais tu la gagnes pas, ça va être considéré comme un désastre, en disant, vous imaginez le Barça, ils sont même pas capables de gagner la Ligue Europa. Voilà, alors que c'est tout à fait honorable de jouer la Ligue Europa, surtout pour cette jeune génération de footballeurs. Pour ceux qui débutent, qui ont 17, 18, 19, 20, 21, les Gavi, les Pedri, même les Eric Garcia ou les Ferran Torres. Quoi. Voilà, ça serait aussi une manière de marquer le début d'une époque avec un titre. Parce que c'est le seul titre que va pouvoir gagner le Barça cette saison. En Liga, ça va être très très compliqué. Même s'il y a eu une belle victoire contre Séville, il y a quand même un matelas de points très important pour le Real Madrid. Donc le Real va remporter la Liga, a priori. Donc le Barça, c'est la seule... Ils ont été éliminés de la Supercoupe d'Espagne, éliminés de la Coupe du Roi. C'est le seul titre possible. Donc je pense que c'est un petit peu entre les deux. Moi, je me souvenais d'une chose. Je me posais la question de savoir, est-ce que le Barça va fêter, on va dire, de manière grandiloquente, cette Ligue Europa s'il la remporte? Est-ce que ce serait pas mal vu, quelque part? Parce que je me souviens, par exemple, que l'Athletic Club de Bilbao, quand ils ont gagné la Supercoupe d'Espagne, ils l'ont fêté de manière assez modeste. Parce qu'il y a une tradition à Bilbao qui est de sortir une espèce de grande barque et de faire un tour sur le fleuve, etc. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils estiment que la Supercoupe d'Espagne n'était pas un titre assez important pour mettre les petits pas dans les grands. Vous imaginez quoi, voilà. Donc je me demande.
Tu penses pas que l'Europa League serait quand même un peu mieux perçue qu'une Supercoupe? Je sais pas.
Enfin, mais quand t'es, excuse-moi.
Ouais, c'est vrai que t'es le Barça.
Pour Bilbao,
c'est la Ligue
Bilbao qui
ouais.
gagne jamais rien ou très rare. Je veux dire, avait dit ah non, Supercoupe d'Espagne c'est pas assez bien. Si le Barça fête l'Europa League comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions,
ils ont pas grand chose à gagner finalement le Barça.
Au Camp Nou, ça serait peut-être mal vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est finalement une situation. Pas très confortable pour le Barça que de jouer cette Europa
mais
League.
Est-ce que ça peut pas être rehaussé, Fred, par le fait qu'ils l'ont jamais gagné et que c'est la seule Coupe d'Europe
si.
Qui leur manque?
Oui, mais si jamais.
Donc là, d'un seul coup, dans ton palmarès, t'as les trois Coupes d'Europe.
On est d'accord, on est d'accord. Sauf que ça va dépendre aussi de ce que va faire le Real en Ligue des Champions. Si jamais le Real gagne la Ligue des Champions, cette Ligue Europa sera nulle. Bon, a priori, le Real va pas gagner la Ligue des Champions.
Mais Fred, tu l'as dit, ça peut être un formidable point de départ pour cette nouvelle
ça.
Génération.
Exactement.
Le Pedri de 19 ans sera pas celui qui aura 30, c'est pas celui qu'on verra à 30 ans.
Exactement.
Et donc, je suis désolé, à 19 ans, gagner l'Europa League comme une forme de progression et de redémarrage du FC Barcelone pour on va dire un nouveau cycle. Moi, je suis désolé, l'Europa League, tu peux pas passer à côté, quoi.
Ah non, bien sûr, non, ce serait. Mais en fait, cette Europa League, finalement, elle prendra du sens. Si avec cette génération, après, il y a des Ligues des Champions. Vous voyez, c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur la manière de disputer. Il la dispute à fond, hein, on voit très bien. Hein, je veux dire, et puis, quand même, le niveau, notamment en phase de groupe, on a eu des matchs d'Europa League très intéressants. Hein, donc, il ne faut pas cracher dessus. Hein, donc, il y avait des matchs de Ligue des Champions qui étaient beaucoup moins passionnants. Mais voilà, je pense que quand tu ne joues pas dans ta catégorie habituelle, je pense que tu es peut-être parfois un peu plus mal à l'aise. Quoi. Donc, j'insiste là-dessus. Je pense que le Barça a beaucoup plus à perdre dans cette compétition qu'à gagner. Mais s'il la gagne, ce ne sera pas une bonne mauvaise nouvelle, hein, c'est évident.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que finalement, Polo, la posture du Barça n'est pas du tout celle de l'Eintracht Francfort. Tu nous le disais l'autre jour dans l'after, c'est le match du siècle pour l'Eintracht. Hein.
Mais c'est complètement fou. On compare ce quart de finale à la fameuse finale de Coupe d'Europe des clubs champions contre le Real en 1959-1960. 7-3, alors que
7-3.
Le Francfort était encore un club amateur à l'époque. Mais c'est ce qu'on appelle un match du siècle, un Jahrhundertspiel. Il y a eu, je vous le disais, il y a plus d'une semaine, il y avait 250 000 demandes de billets. Mais c'est pas juste parce que c'est le Barça. C'est aussi l'Eintracht. Et l'Eintracht, c'est un club qui a un ADN européen très, très important. Moi, je suis très très heureux qu'ils reviennent depuis quelques saisons au minimum en Europa League, et ils sont souvent pas loin d'aller chercher une qualif pour la Ligue des Champions. Et puis tu as une ambiance extraordinaire, évidemment on va le stadion, hein, je vais pas parler du naming parce que ça arrête pas de changer. Et moi j'ai vécu 3 ans à Francfort, c'est très spécial parce que l'image que tu as de Francfort, c'est l'image des banques, évidemment de la finance allemande, etc.
Une ville un peu chiante.
Mais c'est pas du tout ça à Francfort, il y a des petits villages partout autour, moi j'étais juste à côté, et tu vas, et c'est l'une des ambiances les plus folles d'Allemagne. C'est le seul club qui a une culture italienne des tifos qui est liée à l'immigration, etc., alors que pas forcément dans les autres clubs allemands. C'est chaud, rappelez-vous les barrages contre Strasbourg pour la qualification Europa League, le 0-1 à Strasbourg puis 3-0 au retour, hein, c'est tendu dans les tribunes et tout ça. Donc il y aura évidemment en configuration européenne 48 000 personnes qui sont chauffées à blanc. Ils ont fait un mauvais match, enfin tout est relatif, contre Fürth qui est quasiment déjà relégué ce week-end, mais 21 occasions contre 4, ils ont un problème, c'est qu'il n'y a pas de buteur. Boré, il aurait dû tuer le match lors des huitièmes contre le Betis à l'aller, il ne l'a pas fait, on a vu ce que ça a donné au match retour. Mais je voudrais quand même rappeler que depuis que Francfort est revenu en Coupe d'Europe, donc la saison 2019, ils ont collé. Ils se sont tapés l'OM, la Lazio, le Shakhtar, le Salzbourg, Arsenal, l'Inter, Benfica et le Betis, là, on l'a vu en huitième. Je suis désolé. Moi, j'aimerais bien que tous les clubs allemands aient le même palmarès récent en Coupe d'Europe par rapport à ce que je vois. Et donc, c'est un véritable match extraordinaire. Je sais pas ce que ça va donner sur le terrain. Je sais ce que ça va donner dans les tribunes. Il y a une attente extraordinaire pour une rencontre, pour moi, qui est fabuleuse parce que ça valorise encore cette compétition, l'Europa League, que je trouve personnellement beaucoup plus intéressante que les champions.
On parlait du fait que le Barça est en pleine renaissance, que là, ils sont très bons. Hein. L'Eintracht, ils sont comment là?
Ils sont à l'image de leur coach Oliver Glasner, c'est-à-dire qu'il est en reconstruction. Le problème de l'Eintracht, c'est ce qui s'est passé après la demi-finale d'Europa League ou ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'ils ont perdu ce qu'on appelait en Allemagne le troupeau de buffles. Donc c'est Sébastien Haller, Rebic et puis Jovic à l'époque que tu connais bien. Ils ont perdu l'année dernière un super buteur, le portugais Silva, donc qui est parti. Donc ils sont en reconstruction en attaque systématiquement. C'est très solide. C'est défense à 3, défense à 5, j'ai presque envie de dire défense à 7 parfois. C'est à l'image du coach Oliver Glasner qui ne change pas son 11 de départ. Par contre, ils ont des talents individuels. Comme Kostic, évidemment, son pied gauche, il peut mettre le ballon où il veut. Évidemment, le jeune Danois Lindström, mais il faut juste qu'il apprenne qu'il a 10 partenaires autour de lui. Il y a le japonais Kamada qui, à lui tout seul, peut faire la différence sur une rencontre. Et donc, c'est compliqué parce qu'ils sont dans une restructuration. Là, au classement, ça a l'air de rien. Ils ne sont pas dans les 7 premiers, entre guillemets, pour aller chercher une place en Coupe d'Europe. Mais il suffit de 2 victoires en championnat et à nouveau, ils sont en course pour l'Europa League ou pour je sais jamais comment on dit l'autre.
L'Europa
Conference League. Donc, ils sont à leur niveau, j'ai envie de dire. Il y a des très bons joueurs. Alors, si on parle à moyen terme, il y a des joueurs qui sont pas en fin de contrat, mais qui seront bientôt en fin de contrat. C'est le sous-côté complet défenseur central NDK français. Il y a Kostic, évidemment, qui est en 2023. Il y a le défenseur brésilien Tuta. Donc, moi, j'ai vu le match, je te l'ai dit, hein, j'ai vu le match de Barcelone contre Séville. Évidemment que Barça est au-dessus. Maintenant, Il faut les jouer, Francfort. Ils sont capables de résister. Il ne faut surtout pas qu'ils fassent la même chose que lorsque le 8e. Si tu as la possibilité de battre par 2 buts d'écart le Betis à l'aller, bah, faut que tu le fasses. Si tu offres la possibilité au Barça et si toi tu commences à avoir peur, et bah, ça risque d'être une démonstration barcelonaise.
Mais tu as remarqué, Polo, comment Séville a posé de gros problèmes au Barça en étant très solide.
Exactement. Mais c'est ça
qui va se passer. Notamment dans la circulation de la balle. C'est-à-dire que Séville assurait énormément les passes. Tu vois ce que je veux
Exactement.
Dire? Et à un moment, ça a énervé le Barça. Et finalement, ça s'est joué sur un but extraordinaire de Pedri. Sinon, on se dirigeait Exactement. Quand même vers un 0-0. Après, bon, c'est vrai que Bono, Yacine Bounou dans les buts, fait un bon match, etc. Mais tu as vu qu'à un moment, Séville aussi agaçait le Barça. Parce que le Barça, quand tu lui enlèves le ballon, c'est encore une constante, hein, malgré toute l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. Quand tu quadrilles bien le terrain, tu peux les énerver. On les a sentis par moments un peu agacés hier. Et c'est peut-être là la petite chance de, comme tu parlais d'une équipe solide pour l'Eintracht, c'est peut-être là la seule chance pour l'équipe allemande.
Et qui aime la possession aussi. C'est-à-dire que ça va être un duel au milieu de terrain. Donc est-ce que Glasner va changer son schéma tactique, je sais pas, bon, en faisant rentrer un milieu défensif de plus pour essayer en 3-5-2 plutôt que son 3-4-2-1. Ça, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du talent aussi. C'est-à-dire, je parle sous le contrôle de Johan, Lindström, il va faire une très belle carrière. C'est pas la question. Est-ce que ce sera un grand joueur? Ça, c'est un autre débat.
Et ce sera donc jeudi 21h, ce quart de finale d'Europa League entre l'Eintracht Francfort et le Barça. Place au quart d'Europa Conference League avec jeudi 21h un remake. Les retrouvailles entre la Roma et les Norvégiens de Bodø Glimt en phase de groupe.
Bon, hein. Écoutez les amis, vous êtes gentils, mais enfin moi la Conference League, vous savez, nous, alors je suis désolé, moi je vais vous laisser parce que nous les Espagnols... Hein, enfin, non, mais nous,
alors, attends, juste petit point règlement, quand même, parce que t'as raison de le dire, il n'y avait pas de club espagnol en Europa Conference League cette saison. Pourquoi? Parce qu'on parlait de Villarreal tout à l'heure. Ouais. Villarreal devait jouer l'Europa Conference League, mais comme ils ont gagné l'Europa League, ils se sont retrouvés direct en Ligue des Champions finalement, et il n'y a pas eu de club espagnol finalement en Europa Conference League.
Mais moi, je trouve pas ça normal. En fait.
Moi non plus, je trouve ça un peu bizarre.
Bah, c'est-à-dire que non, pourquoi il n'y a pas une prime à ceux qui gagnent?
Bah, ils privilégient les petits pays finalement, tu vois.
Bah oui, mais bon, je veux dire, l'Espagne.
Ouais, je suis d'accord les gars, mais quand même, pour avoir vu un certain nombre de matchs et en dehors des équipes surprises ou qui se rattrapent par rapport à cette compétition, c'est quand même de la 3e division européenne. Quoi.
Ouais, ouais. La raison pour laquelle nous Espagnols, nous n'y participons pas.
Ouais, ça
moi j'aime bien, moi après, il y a des joueurs qu'on découvre, etc., des coachs, c'est un autre football. Ouais, ouais. Donc tu veux y aller mon Fredo, c'est ça?
Non, mais moi je vous laisse dans votre petit jeu, là. Moi, je vous laisse entre copains.
Bisous Fredo.
D'accord.
Allez, ciao.
Allez, à bientôt.
Ciao. Ciao. Place au quart d'Europa Conference League avec jeudi 21h, un remake. Les retrouvailles entre la Roma et les Norvégiens de Bodø Glimt en phase de groupe, le match aller avait scotché tout le monde, y compris notre commentateur RMC Sport Christopher Lecoq. À la 80e, il y avait 5-1 pour les Norvégiens.
Ah, on est complètement circonspect, nous aussi. Mourinho aussi, sans doute, mais nous encore plus, devant cette démonstration collective qui va peut-être se poursuivre avec un seul paquet. Oh, on va entamer le deuxième set. 6 buts à 1 pour Bodø/Glimt face à la Roma. José Mourinho est en train de sombrer, tout comme la Roma.
Et ouais, 6-1 pour Bodø/Glimt face à la Roma. Plus large défaite de la carrière de José Mourinho, hein, ce 6-1 en phase de groupe. Alors Johan, cette Europa Conference League peut-elle sauver la saison de la Roma? Alors qui, même si c'est vrai, ces derniers temps se rapproche un petit peu du top 4. Il y a quand même un petit matelas pour la Juve, hein, cela dit. Hein.
Ouais, alors c'est difficile de répondre à l'instant T à cette question parce qu'il peut se passer encore des choses, mais... En fait, il y a eu quand même beaucoup d'éléments négatifs dans cette saison. L'objectif principal, c'était d'être dans les quatre premiers en Serie A. Et tu viens de le dire, sauf énorme surprise de fin de saison et écroulement total de la Juve, bah, la Roma n'y sera pas. Il y a eu cette humiliation à Bodø/Glimt, dont le monde entier a parlé. Et je pense que ce qui a déclenché une énorme colère de José Mourinho et toutes les semaines qui ont suivi où il a défoncé son effectif ouvertement, je pense que c'est lié à cette humiliation en Mondiovision dont Mourinho n'a pas vraiment l'habitude. Et je pense que ça l'a beaucoup perturbé. C'est pour ça qu'il s'en est pris ouvertement et directement à ses joueurs de manière publique. Il y a eu des prestations décevantes aussi en Coupe d'Italie, avec une défaite en quart de finale contre l'Inter dans un match où la Roma a jamais existé. Et après avoir passé un huitième de finale, parce qu'en Italie, je le rappelle, les gros clubs entrent en huitième de finale, ce qui est totalement hallucinant aussi en termes d'organisation de compétition. Mais bref, contre Lecce, un club de série B. Donc mine de rien, il y a eu quand même beaucoup de déceptions. Alors... Mourinho, il bénéficie quand même d'une meilleure équipe que Paulo Fonseca la saison passée. Et en Serie A, il y a eu un petit point de route fait aujourd'hui en Italie. La Roma a exactement le même nombre de points qu'avec Paulo Fonseca lors de la saison dernière, à 7 journées de la fin. Donc il a un meilleur effectif, pas des meilleurs résultats. En termes de jeu, c'est pas meilleur. L'humiliation à Bodø/Glimt, tu finiras pas dans les 4 premiers alors que c'était l'objectif. T'es décevant en Coupe d'Italie. Bon, c'est quand même pas ultra positif. Alors, évidemment que le côté gagner un trophée européen que la Roma n'a toujours pas gagné, qu'elle attend depuis des années et des années. Alors, je compte pas la Coupe des Villes des Foires, hein, évidemment, dans les trophées européens. Mais ça ferait un bien fou et je pense qu'on le fêterait largement à Rome parce qu'on vit sur la malédiction de 1984 et la finale de Ligue des Champions perdue à domicile contre Liverpool au tir au but à l'Olympico. C'est absolument catastrophique et tout le monde en parle encore bientôt 40 ans après. Est-ce que ça peut la sauver? Disons que ça peut être l'arbre qui cache un peu la forêt parce qu'il y aura beaucoup de choses négatives qui auront eu lieu dans cette saison mais que tu peux finir quand même avec un trophée européen, chose que tu n'as pas dans ta vitrine à trophée. Donc allez, on va pencher vers le oui, mais ça fera pas tout oublier non plus.
Non, ce sera à suivre. En tout cas, il va être sympa ce match, hein, ne serait-ce que pour les retrouvailles. Puis elle est étonnante, hein, cette équipe de Bodø/Glimt. Toi qui suis beaucoup les championnats scandinaves, ouais. Également, c'est complètement hallucinant ce qu'ils font.
Mais c'est ce qui est complètement fou, c'est de se dire qu'il y a 4 saisons, ils étaient en deuxième division, ouais. Norvégienne, qu'ils ont gagné 2 titres d'affilée, que leur premier titre, ils mettent plus de 100 buts en championnat, ce qui était hallucinant. Ils ont un système, évidemment, et une qualité de jeu qui est assez rare pour des pays scandinaves. Moi qui suis beaucoup ces championnats-là, je vois une qualité qui est assez dingue et un jeu très européen, ce qui n'est pas toujours le cas. Et très sincèrement, cette équipe de Bodø, j'ai envie de dire qu'elle est capable de refaire la même, mais là au moins les joueurs de la Roma, ils seront avertis. Alors il y aura deux choses. Un, ils sont avertis. Il y en aura même 3. 2, ils doivent une revanche à leurs supporters et à José Mourinho, et ça c'est pas rien. Et 3, il y aura pas d'équipe B comme en phase de groupe, ouais, donc ça peut changer quand même quelques trucs.
L'un des autres quarts de finale d'Europa Conference League va opposer Leicester au PSV. Alors Leicester, hein, qui avait sorti Rennes au tour précédent, qui est coincé dans le ventre mou de la Première Ligue, qui est un jeune club, hein, sur la scène européenne. Si on regarde, il y a 4 participations en Coupe d'Europe. Alors focus sur l'équipe dont quasi personne d'autre ne va vous parler, c'est le PSV. Le PSV qui est un habitué des Coupes d'Europe. Est-ce que vous diriez, tiens, on va commencer par toi Polo, que l'actuel deuxième de Redivisie est favori face aux Foxes de Leicester?
Malheureusement non, j'aimerais, mais je dis malheureusement non, alors que j'adore ce coach Roger Schmidt, l'allemand. Je vais dire non parce que si je vois l'effectif et qui m'intéresse beaucoup, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'aime l'Europa League, c'est qu'on voit souvent des belles affiches avec des belles équipes, c'est que depuis le début de la saison, ils sont certes à la lutte avec l'Ajax pour remporter le championnat, mais lorsqu'ils ont joué l'Ajax, ils ont perdu deux fois. Tu le sais très bien, Nico, le match de barrage contre Benfica, ben, ils ne sont pas passés. Ils sont tombés dans un groupe d'Europa League où il y avait l'AS Monaco, la Real Sociedad et puis le Sturm Graz. Ils ne sont pas passés non plus, ils ont fini troisième, donc ils sont reversés. Et donc à chaque fois que ça devient dur, entre guillemets, où il y a un petit col de montagne, eh ben, ils ne passent pas. Donc j'ai le sentiment qu'ils sont dans une forme de limite à ce niveau-là. Par contre, ça ne sera pas évident. C'est-à-dire que évidemment, je ne vois pas Leicester se balader pour passer, mais j'ai le sentiment, pour la deuxième saison de Roger Schmidt, que ce sera un peu difficile de passer le club anglais.
Alors on va faire un petit focus hein, sur Schmidt dans quelques instants. Juste ton avis toi là-dessus, Johan, également. Est-ce que tu penses que le PSV est un peu favori quand même face à une équipe qui est ventre mou de PL ou la PL ça reste quand même au-dessus?
Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Polo. Je pense tout simplement qu'un club néerlandais ne peut jamais être favori face à un club de Première Ligue. Sauf si l'Ajax est impliqué face à un... Ça aurait été Ajax-Leicester, mon discours aurait été différent, mais l'Ajax, c'est pas la réalité quotidienne de tous les clubs aux Pays-Bas, et même si le PSV fait une bonne saison, le quotidien du PSV et de Leicester est en fait est trop différent. J'ai écouté récemment un entretien très intéressant de Matthijs de Ligt à CBS, le diffuseur américain de la Serie A, et il expliquait notamment la différence de sensation face à des victoires 1-0 en Italie et aux Pays-Bas. Et il disait, moi à la Juve, j'étais très étonné parce qu'on gagne 1-0 contre le 20e et en fait tout le monde est heureux. Et on fait un petit match, mais tout le monde est heureux. Et il me dit, si on fait ça à l'Ajax contre le dernier de Redivisie, on se fait siffler. C'est-à-dire que si on gagne 1-0 en n'ayant pas beaucoup d'occasions, mais les gens ne sont pas contents. Et il disait, en fait, l'écart est vraiment moins important en Serie A et donc de facto aussi en Première Ligue, entre le premier et le dernier. Et donc, par rapport à l'Eredivisie, le résultat est plus valorisé. Et le quotidien du PSV, en fait, c'est ça, c'est cette Eredivisie-là. C'est pas parce que tu mets 2 fois 4-0 face à des mal classés que tu es favori face à un club anglais en Coupe d'Europe, club anglais qui va affronter 12 fois dans l'année Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Chelsea, etc. Donc, on va voir comment ils vont répondre, notamment sur l'intensité et le défi physique, parce que Polo l'a dit, les résultats face aux gros cette saison, c'est compliqué. Ils prennent beaucoup de buts, ils en ont pris 5 en 2 matchs contre la Real Sociedad, ils en ont pris 4 à domicile face au FC Copenhague, qui n'est pas une immense référence non plus européenne. Contre l'Ajax, c'est toujours compliqué quand ils les affrontent, donc il y a quand même pas mal d'incertitudes, même s'il y a des beaux joueurs, qu'il y a un jeu intéressant, un coach intéressant. Ah, tu sens que c'est un peu plafond de verre quand même.
Eh bah tiens, parlons-en du coach Roger Schmidt qui est annoncé en partance hein, vers le Benfica la saison prochaine. Info qui nous vient de la presse allemande et portugaise. L'avenir de Schmidt n'est pas encore officiel, mais le PSV vient d'annoncer son entraîneur pour la saison prochaine. Van Nistelrooy, on va y revenir là aussi. D'abord, focus sur Schmidt qui sera donc sur le banc face aux Foxes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà comment il définissait sa vision du jeu lors de son arrivée à Eindhoven il y a 2 ans.
I'm convinced of an active and brave style of football with high intensity. So, I know, I accept that in football you can do a lot of things well, but nevertheless you can lose. So it is always, I think the challenge is to make the probability to win as high as possible. And in my opinion, it is only you can only do that if you play an active style of football.
Voilà, adepte du jeu actif, haute intensité. Le challenge, c'est d'augmenter au maximum la probabilité de gagner. Et là, à mon sens, la seule façon de le faire, c'est en pratiquant un jeu actif. Je sais que Polo, que Schmidt, c'est l'un de tes coachs préférés.
C'est l'un de mes coachs préférés. Moi, je l'avais découvert en seconde division à Paderborn à l'époque. Justement, en seconde division, c'était un petit club. Il avait fait un exploit en finissant 5e. Évidemment, passé par la Galaxie Salzbourg. Mais moi, ce qui m'a... Et on l'a vraiment connu en Allemagne, si tu veux, entre 2014 et 2017, lorsqu'il a coaché le Bayer Leverkusen, où dès la première année, il est en 8e de Ligue des Champions. C'est où tu avais le sentiment que Leverkusen pouvait passer un palier. Ils perdent au péno contre l'Atlético Madrid en 8e. huitième, donc ils gagnent 1-0 l'aller, ils perdent 1-0 le retour. Et surtout, ce qui est très important dans l'interview que tu viens de donner, c'est qu'il parle d'intensité haute, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui court, ou ses joueurs doivent courir partout, de préférence dans la surface adverse, et ça demande une énergie, donc ce sont des équipes qui sont très énergivores, et j'ai adoré ça. En Allemagne, on considère Roger Schmidt comme un entraîneur radical, il y en a quelques-uns comme ça, où c'est plus une philosophie de jeu que de s'adapter à l'adversaire, etc. Bien sûr, il faut avoir les joueurs pour le faire, hein, c'est pas gagné. Et moi, alors il a, évidemment, au bout d'un moment, ça éreinte complètement les effectifs. Donc, il a été en 2017, il a été licencié du Bayer Leverkusen. Et Rudi Völler disait aussi que c'était un peu compliqué de licencier un tel entraîneur parce qu'on sentait. Alors, il est relativement peu connu en Europe, hein, aussi malheureusement, parce qu'aujourd'hui, ça aurait été là, différent dans les années 80. Le PSV Eindhoven a moins de notoriété que le dernier des clubs anglais. Ça, c'est un peu dommage. Il est parti en Chine, on l'oublie, c'est une légende là-bas au club de Guan. Il est revenu, tout le père quand il est quitté, les gens pleuraient parce que il a réussi un truc extraordinaire. Et donc là, il arrive au PSV Eindhoven, il fait un parcours, je considère comme normal quand on connaît le standing du PSV Eindhoven. Mais voilà, moi je l'ai. Bon, alors s'il va au Benfica, ça m'étonne pas, mais j'aurais bien aimé le revoir en 2022-2023 en Bundesliga, parce qu'on l'annonçait plutôt du côté du Hertha Berlin notamment, mais vu la situation actuelle, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'adore ce genre de coach qui a des convictions, qui cherche à jouer, qui part du principe que de toute façon on gagne si on a plus d'occasions que d'occasions concédées. Donc ça, tout ça, moi ça me plaît énormément. Et puis c'est des gars, ils se font pas embêter par les grandes stars quand même, c'est aussi ça qui me plaît.
Et alors le PSV, Johan, qui donc il y a quelques jours là vient d'annoncer son entraîneur en vue de la saison prochaine, alors que l'avenir de Schmidt finalement n'est pas encore scellé, et ce sera donc Ruud van Nistelrooy. Alors c'est une petite surprise hein, vu de l'extérieur finalement hein.
Alors, petite surprise, oui et non. Petite surprise parce que on savait depuis un moment que le PSV travaillait pour trouver un remplaçant à Schmidt. Le nom de Van Nistelrooy est sorti rapidement dans la presse néerlandaise, mais en fait, il était assez réticent au départ. C'est pour ça que je dis oui et non, parce qu'en fait, lui, il s'estimait pas prêt. Je rappelle qu'il est seulement à sa première année, j'allais dire en dehors du football des jeunes, mais même pas, parce qu'il fait les Young PSV, donc c'est les U23. Avant, il avait fait les U19. Il a été assistant aussi de la sélection nationale des Pays-Bas. Mais lui, il s'estimait pas prêt et le PSV lui a proposé une option intéressante. En gros, on lui a dit « prends un adjoint très expérimenté qui te facilitera aussi un petit peu la vie ». Et donc c'est Fred Rutten qui l'accompagnera dans cette tâche, et Polo doit s'en souvenir, il avait coaché Schalke comme l'ami Tedesco, il a entraîné aussi le PSV d'ailleurs, il avait entraîné Twente, il avait entraîné le Vitesse Arnhem, Anderlecht. Donc c'est vraiment quelqu'un avec une expérience importante qui va servir comme adjoint à Van Nistelrooy sur pas mal de données qu'il ne maîtrise sans doute pas encore aujourd'hui. Mais finalement, le PSV, il fait du PSV. C'est-à-dire que c'est un club qui n'a jamais hésité, ou jamais même trop tardé, à faire confiance à des jeunes entraîneurs qui sont des anciens professionnels, parfois des anciens du club. Je pense à Philippe Cocu, je pense à Marc Van Bommel sur la dernière décennie. Et là, c'est en fait quelque chose d'assez naturel d'aller chercher Van Nistelrooy, qui entraînait donc la réserve, et la réserve du PSV, comme la réserve de l'Ajax, la réserve de l'AZ aux Pays-Bas et la réserve d'Utrecht jouent en deuxième division. Donc c'est quand même un niveau déjà de compétitivité assez important. Et lui qui a travaillé avec les sélections de jeunes, donc les U19 et Young PSV, il va pouvoir s'appuyer aussi sur des jeunes qu'il a connus dans ces sélections-là. Je pense à des Johan Bakayoko par exemple, qui est un Belge, qui est très intéressant, un milieu de terrain offensif, ou à Fodé Fofana, qui auront plus de temps de jeu la saison prochaine. Et en fait, c'est une des caractéristiques du PSV. Si on revient sur la construction de l'effectif, ça fait des années et des années. Et j'en avais parlé avec Bolo Zenden, qui fait partie du staff de Schmidt, mais il faisait partie du staff de Van Bommel aussi, qui lui s'occupe des attaquants à l'entraînement. Et en fait, le PSV réussit à sortir, on va dire sortir, pas que former, parce qu'il y a aussi de la post-formation ou du recrutement assez intéressant de nombreux joueurs offensifs. Si on prend juste les 2-3 dernières saisons, il y a eu Daniel Malen, que là aussi Polo connaît puisqu'il est maintenant à Dortmund.
Écoute,
il y a Cody Rakpo qui est l'ailier gauche, le joueur le plus talentueux de cet effectif-là cette saison du PSV, mais déjà la saison passée, c'est un ailier très grand, très technique, très très intéressant. Il y a aussi Noni Madueke qui a été recruté à Tottenham assez jeune. Il y a Aboukrala qui a été transféré ensuite à l'AZ Alkmaar. Il y a Sam Lammers que Polo a aussi vu à Francfort. Il y a Jorbe Vertessen qui est un Belge aussi. Il y a pas mal de Belges qui viennent au PSV. Donc voilà, il va pouvoir piocher un peu dans cet effectif offensif très intéressant. C'est plus compliqué derrière, c'est plus compliqué au milieu où là, il faut recruter à l'extérieur, hormis Jordan Tess, qui est le latéral droit, qui a beaucoup joué de défenseur central en raison des blessures là depuis 2 mois et qui est un joueur très intéressant. Mais c'est une équipe très offensive. Ça ne surprendra pas Polo parce qu'il nous a bien parlé de Roger Schmidt.
C'est l'équipe de Götze en plus aussi, hein, on le rappelle. Hein,
voilà, c'est ça. Mais c'est une équipe offensive, beaucoup de talent offensif. Par contre, derrière, c'est léger, ça prend beaucoup de buts, ça fait beaucoup d'erreurs individuelles aussi. Même dans les buts, Drommel, c'est pas génial. Vogo, le Suisse qui vient de RB aussi, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, il a pas été bon quand il a eu sa chance au PSV. Donc voilà, enfin, c'est une équipe qui a beaucoup de talent offensif quand même, comme Leicester. Ça va être compliqué, mais Van Nistelrooy aura quand même une belle base. Hein, très sincèrement, pour travailler, ça va être très intéressant à suivre.
Et ce sera donc jeudi 21h, ce quart de finale d'Europa Conference League entre Leicester et le PSV, autre club néerlandais. Hein. Il y aura Feyenoord face au Slavia Prague et mon petit chouchou, Jendrik Trpišovský, l'entraîneur de l'équipe du Slavia, que je kiffe bien évidemment. Merci beaucoup, cher drôle de dame. Voilà ce podcast qui touche à sa fin. Merci beaucoup. Merci Jimmy Brown à la production, Julie Deroux à la réalisation. N'oubliez pas de vous abonner au podcast After Galaxy. N'oubliez pas que l'Europa League et l'Europa Conference League, c'est à suivre sur RMC et sur RMC Sport. Bisous, prenez soin de vous. Merci beaucoup.
RMC, After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.